Matin. On a besoin de ta grâce. Instruis-nous ce matin afin que Jésus-Christ seul soit glorifié en ces lieux pour la seule gloire de lui-même. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Sois le souverain et roi de la terre, le maître des temps et des circonstances. Te bénissons Seigneur Dieu ce matin parce que tu es Dieu égal à toi-même. Glorifie ton nom. Nous avons besoin de toi, Seigneur, aujourd'hui plus que jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Rédempteur, nous avons ainsi prié et ensemble on peut dire Amen.
Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la paix soit avec vous. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans sa parole. Nous allons revenir sur notre passage de base que nous avons commencé dimanche passé, Jean chapitre 10. Nous sommes en train de partager sur la voie du bon berger. La voie du bon berger. Jean chapitre 10. Verset 1er. La parole de Dieu déclare, oui, je vous le dis, c'est la vérité, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons, chacun par son nom, et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche, la Bible déclare, il marche devant eux. Et ses moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais, s'il vous plaît, ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Nous allons dans le livre, l'épître de Hébreux, Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, le verset 1. Hébreux 1, 1 déclare ceci. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde, et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Et enfin, nous allons terminer dans un célèbre texte de Job, que beaucoup connaissent d'ailleurs, Job 33, verset 14. Job 33, le verset 14. Parlons ici de la voix du bon berger. Pourtant, Dieu parle de différentes manières. Mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Il ouvre leurs oreilles. Il les avertit une bonne fois pour toutes. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe. Il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Mais Dieu corrige aussi l'être humain par la maladie qui le garde couché. Alors, il tremble de fièvre sans arrêt. Il est dégoûté de la nourriture. Il n'a plus d'appétit pour des bons plats. Il est très maigre, on ne voit plus que ses os. Il a déjà un pied dans la tombe, sa vie est au pouvoir de ceux qui font mourir. Mais un ange se trouve peut-être près de ce malade, un intermédiaire de Dieu pris entre mille, qui lui rappelle son devoir. L'ange a pitié de lui et dit à Dieu, évite-lui de descendre la tombe, j'ai trouvé le moyen de le délivrer. Voilà, la voix du bon berger. Dimanche passé, je disais que le Seigneur notre Dieu est le berger, mais il n'est pas le berger de tout le monde, il est le berger de celles qu'on appelle les brebis. Et c'était important de le savoir. Dieu n'est pas le berger de tout le monde. Notre Seigneur est le berger des brebis. Et les brebis de Dieu, du Seigneur, écoutent la voix de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu, je reviens encore là-dessus, sans connaître Dieu. On ne peut pas faire entrer dans sa vie quelqu'un qu'on ne connaît pas. On a dit qu'il faut ouvrir la porte pour que le berger il entre. Mais si tu ouvres la porte à un étranger, tu t'exposes à beaucoup de problèmes. Parce que si tu fais rentrer dans ta maison un voleur, il va te voler. Tu fais rentrer dans ta maison un destructeur, il va détruire. Tu fais rentrer dans ta maison quelqu'un qui apporte des malheurs, il y aura des malheurs. Il faut savoir qui l'on reçoit chez soi. Donc, Jésus-Christ est le prince de vie, c'est lui qui incarne la vie. Lorsque nous recevons Jésus, nous recevons la vie. Et je vous disais dimanche passé que la porte, lorsqu'il frappe à la porte c'est un moyen d'accès. Il faut pouvoir l'accueillir sans que l'on te force. Et je vous ai dit dimanche passé qu'on n'oblige pas quelqu'un à recevoir le Seigneur. Jésus ne rentre pas par force dans nos vies. Il rentre dans des vies qui sont ouvertes. Il entre dans des vies où les personnes reconnaissent leurs besoins de lui. Si nous n'avons pas besoin de lui, il n'entrera pas. Il ne nous oblige pas à le recevoir. Donc, nous sommes en train de voir qu'il y a, comme je vous l'ai dit le dimanche passé, d'un côté les brebis et les boucs. Et je vous avais dit qu'il y a des boucs. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons qualifié l'église pour dire que l'église, ça ne va pas, l'église a des problèmes. Et ça, c'est un abus de langage, parce qu'en réalité, l'église n'a pas de problème. L'église de Jésus-Christ, celle qui est invisible, celle qui est universelle, avec les brebis qu'il connaît. Hein. C'est parce que sur le plan local, nous avons dans les rassemblements toutes sortes de personnes. Et sur le plan local, dans nos rassemblements, étant donné que nous avons autant celles qui sont réellement nées de Dieu et celles qui ne le sont pas. Et donc, comme il y a tout ce désordre là qui se passe sur le plan local, alors qu'est-ce qu'on dit? L'église, ça ne va pas. Les chrétiens font n'importe quoi. Or, le véritable enfant de Dieu ne fait pas n'importe quoi. L'église de Jésus-Christ, elle est pas une église qu'on peut dire que voilà, l'église, ça ne va pas. Non, l'église, elle est en train de grandir. L'église est en train de se purifier. L'église est en train de se sanctifier. C'est-à-dire, véritablement, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, sont en train de le chercher, même en tâtonnant. Mais comme il y a des boucs dans la maison du Seigneur, ce qui fait qu'on a tous ces problèmes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas un cœur ouvert à Dieu. Et je disais que la seule façon pour que le bouc devienne une brebis, il faut qu'il y ait une action surnaturelle de Dieu. Parce que lui seul change les cœurs de pierre en cœurs de chair. L'homme ne peut pas changer son propre cœur. L'homme ne peut pas changer sa propre vie. Si ce n'est pas l'intervention surnaturelle de Dieu, nous-mêmes, là, nous sommes des témoins vivants. Chacun connaît sa vie. Si ce n'était pas Dieu, là, est-ce que nous serions ce que nous sommes devenus? Non! La grâce de Dieu est venue nous toucher et elle a changé en nous ce qu'on ne pouvait pas changer par nos propres efforts. C'est Dieu qui change un homme. Ce n'est pas notre philosophie, ce ne sont pas nos résolutions qui vont nous changer. C'est la parole de notre Dieu qui nous change. Mais la parole qui change, c'est la parole qui est écoutée par celles qui craignent Dieu. Ça dit les brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix ou bien écoutent ma voix. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles me suivent. Or, nous avons aujourd'hui des personnes qui écoutent, mais qui ne suivent pas. Et c'est là le problème. Le problème, c'est que nous écoutons, mais nous ne suivons pas. Or, celui qui dit qu'il est la brebis du Seigneur, tu ne peux pas dire que tu es une brebis de Dieu. Dieu parle et toi, tu ne bouges pas. C'est comme il y a une histoire dans la Bible où il y avait deux fils. Et le père dit au fils d'aller au champ faire un travail. Il y a le premier fils plein de zèle qui a dit oui, je veux le faire, il n'y a pas de problème, je partirai. Finalement, il n'est pas parti. Et puis, il y a celui qui, au départ, il est un peu boudé, il n'était pas trop chaud, et finalement, il est parti. Et la question, c'est qui était le bon fils? Celui qui a fait la volonté du père. Celui qui a manifesté l'apparence de vouloir faire les choses et qui finalement ne les a pas faites n'était pas le fils. Dans nos communautés, nous avons plein de personnes comme ça. Nous manifestons une certaine apparence de vouloir faire des choses pour Dieu. Un zèle pour pouvoir faire les choses de Dieu. Mais finalement, on ne fait rien pour le Seigneur. Et on dit qu'on est enfant de Dieu. Or, n'est-ce pas lui qui a dit dans le livre du prophète Malachie, chapitre 1, verset 6, « Si je suis un père pour vous, où est l'honneur qui m'est dû ? Si je suis un maître pour vous, où est la crainte qui m'est due ?» Parce qu'il dit « Un fils honore son père ». Honorer son père, c'est commencer par obéir à la voix du père. Donc, les boucs, ils sont têtus, pas d'humilité, rebelles. Ils ont l'esprit d'autosuffisance. Et ils aiment l'indépendance. Nous, on ne veut pas l'indépendance. Nous, on veut la dépendance à Dieu. La brebis dépend du berger. Aucun instant, un enfant de Dieu, si tu commences à te dire que tu peux y arriver seul sans Dieu, sache que tu n'es pas une brebis. Parce que celui qui a réellement compris son état, sa condition, ne peut pas dire qu'il peut faire sans Dieu. Je vous avais dit la dernière fois, tout ce que nous avons, nous possédons, c'est la grâce de Dieu. Que ce soit pour les chrétiens comme pour les païens, tout ce que l'être humain est, c'est la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne le souffle de vie, ça commence par là, aux païens comme aux chrétiens. Et sans ce souffle de vie là, rien ne peut se faire. Si Dieu ne donne pas la vie, le païen ne peut pas aller travailler. Il ne peut pas faire ses affaires, il ne peut rien faire. Et ce souffle de vie, ça vient de Dieu. Donc finalement, c'est une affaire de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne. Or nous, quelquefois, on oublie cet aspect de la grâce de Dieu. Et on fait les choses à notre manière. Ce n'est pas possible. Si Dieu décide, là, c'est terminé pour nous. Les boucs. Alors Dieu nous parle de plusieurs façons, nous qui sommes les brebis du Seigneur. Et on va voir rapidement les différentes façons dont il nous parle pour terminer avec ce que je veux véritablement que nous puissions comprendre. Et nous savons que à travers Hébreu, on a dit que Dieu nous parle à travers le Fils. Dieu nous parle à travers Jésus. Dieu est venu parler au monde à travers Jésus. En dehors du fait que la création elle-même nous parle de Dieu, nous révèle Dieu, nous donne des informations sur Dieu. Mais ça, c'est peut-être l'objet d'un autre message, la différence entre les informations que l'on a sur Dieu et puis la connaissance que l'on a de Dieu. Parce que ce n'est pas la même chose. Avoir des informations sur Dieu et connaître Dieu, ce n'est pas la même chose. La création nous informe sur Dieu, mais la création ne nous permet pas de connaître Dieu. La création nous informe. Donc quand on regarde la lune, les étoiles, la mer, on se pose des questions, on dit certainement qu'il y a un Dieu, il y a une force, il y a une puissance qui a dû faire ça. Mais ces éléments ne nous permettent pas de connaître Dieu. Ça nous donne de l'information. Et à travers le Fils, Dieu est venu parler. Dieu nous parle, comme vous le savez, par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en nous nous parle. Et c'est Dieu qui nous parle. À travers, bien sûr, la parole écrite, la Bible, le Seigneur nous parle. Il nous parle, comme on l'a vu dans Jean, dans Job, à travers des songes, à travers des visions. Dieu nous parle à travers la prophétie. Ça, je le dis comme ça, pêle-mêle, c'est l'objet d'enseignements plus approfondis. Dieu nous parle à travers les circonstances de la vie. Dieu nous parle à travers les souffrances et les douleurs que l'on peut avoir. Il a dit d'ailleurs dans sa parole, ce sont les moyens qu'il utilise aussi pour nous parler. Et Dieu nous parle bien sûr à travers les serviteurs de Dieu. Et le problème, encore une fois, ce n'est pas le fait que Dieu ne parle pas. Quelles que soient les différentes méthodes, les différents moyens que j'ai évoqués, la prophétie, les songes, les visions, la création, la Bible, le Saint-Esprit, tout ça, le problème c'est que nous n'écoutons pas Dieu. Le problème, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Pourquoi nous ne prenons pas garde? Pourquoi on ne veut pas écouter la voix de Dieu? Il faut se poser un certain nombre de questions. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que Dieu m'a parlé et pour d'autres, on les trouve assez anormales. Comment Dieu lui a parlé? Il y a des personnes qui doutent même que Dieu puisse parler à d'autres personnes. Parce que si Dieu est tellement grand, Dieu est tellement immense, est-ce que Dieu lui a même parlé là? Oh non, le Seigneur m'a dit, le Seigneur, oh, lui se prend pour qui? Mais Dieu nous parle. Il y a des personnes qui ont appris à écouter la voix de Dieu, justement. Donc quand quelqu'un dit le Seigneur m'a dit, il sait pourquoi il dit ça. Donc, il ne faut pas qu'on se dise que non, lui aussi veut montrer quoi. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les brebis reconnaissent la voix du berger. Quand quelqu'un dit Dieu m'a parlé, en tant que brebis, il sait pourquoi il le dit. Et non, si la personne elle invente, ça c'est elle-même avec Dieu. Mais Dieu nous parle. Il dit mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. C'est pourquoi si on reste seulement sur ça, frères et sœurs, comment nous pouvons dire que nous suivons le Seigneur, nous sommes les brebis du Seigneur, mais nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Quand on voit notre propre vie, on ne marche pas selon le Seigneur. On entend des choses sur Dieu, mais on ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a une incompatibilité. On ne peut pas dire que je suis la brebis, mais en même temps je marche à ma manière. Ce n'est pas possible. Nous avons des faiblesses, c'est vrai, mais en nous appuyant sur Dieu, même si c'est en tâtonnant, nous restons dans les voies de Dieu. Mais on ne peut pas dire qu'on appartient à Christ, on est une brebis de Dieu, et nous marchons différemment de la voie de Dieu. C'est un problème aujourd'hui dans l'Église. Il dit mes brebis, il dit mes brebis, et il ajoute quelque part, il les connaît toutes par leur nom. Il connaît chacune de ses brebis. Hein. Mais il dit, non, ces brebis-là qui sont à moi, dit le Seigneur, elles écoutent ma voix. Et elles me suivent. Comment elles font pour écouter la voix du berger? Comment elles font pour écouter la voix du berger? Comment elles font pour écouter la voix du berger? Comment elles font pour écouter la voix du berger? À votre avis, comment elles font? Comment elles font? Comment? Ou bien je vais reposer la question autrement. Comment peut-on arriver, voilà, à écouter la voix de Dieu? En se disposant dans le silence, dans l'obéissance. Comment un enfant reconnaît-il parmi toutes les voix des mamans la voix de sa mère? C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui parlent, mais l'enfant arrive à détecter dans tous ces bruits-là la voix de sa maman ou de son père. C'est dû à quoi?
La relation qu'il a avec
la relation, le lien qu'il y a entre les deux, la proximité qu'il y a entre les deux. Et c'est à travers ce lien, cette proximité, cette relation, cette intimité-là que l'enfant parvient parmi 10 000 voix à reconnaître la voix de sa mère. Question. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons être donc à mesure d'écouter la voix de notre Père. Et nous avons évoqué sur le plan naturel que c'est par une proximité, une communion, par un lien, une identification avec notre géniteur. C'est à partir de là que nous pourrons écouter la voix de Dieu. Mais si je ne suis pas en relation avec Dieu, question encore une fois, comment être en relation avec Dieu? Ou en communion, si vous voulez, avec Dieu. À travers la prière. Prière, méditation. Donc, si un enfant de Dieu ne prie pas, c'est-à-dire ne communique pas avec Dieu, si un enfant de Dieu ne s'imprègne pas de la parole de Dieu, le livre, comment pourra-t-il écouter la voix de Dieu puisque Dieu est esprit? C'est pas possible. Nous voulons que Dieu nous parle. Seigneur, parle-moi. On va dans des retraites et dans des jeûnes pour que Dieu nous parle. Mais comment tu veux que Dieu te parle alors que les moyens que Dieu nous a donnés pour pouvoir l'écouter, nous les avons à notre disposition. Nous devons être dans la communion, aimer la communion, aimer la lecture de sa parole. Ce n'est que plus je m'imprègne de sa parole, je reçois la pensée de Dieu. Je reconnaîtrai la voix de Dieu. Mais si je ne suis pas imprégné de sa parole, Si je ne suis pas en communion avec Dieu, quand il y aura plusieurs voix qui vont s'élever, comment je saurai que c'est Dieu qui me parle? Comment tu vas savoir? Ce n'est pas un truc comme ça qui arrive comme dans les films de science-fiction, puis subitement tu entends une voix qui parle dans le ciel. Hein? C'est d'abord lié à ta communion, ta relation avec lui. L'esprit qu'il a mis en toi, là, c'est son propre esprit. La Bible dit que l'esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit, c'est lui qui reconnaît notre filiation et qui nous pousse à l'appeler notre Père. Dieu nous parle, mais nous n'écoutons pas. Pourquoi on n'écoute pas Dieu? Parce qu'on n'est pas en communion avec lui. Parce qu'on ne lit pas, on ne médite pas sa parole. C'est ça le problème. Plus nous connaîtrons la vérité, c'est pourquoi j'aimerais vous dire une vérité importante. Ça ne sert à rien de faire des recherches et des études sur la démonologie, les différents noms des démons, la hiérarchie dans le monde spirituel. Cherchez à connaître d'abord le Seigneur Christ. C'est-à-dire que cherchez à connaître la vérité, parce que plus vous connaîtrez la vérité, vous allez déceler le mensonge. Or, vous voulez étudier le mensonge et négliger la vérité de côté. Comment vous allez vous en sortir? Et c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Au lieu de chercher à connaître Christ qui est la vérité, à découvrir Dieu à travers Jésus, on est là dans plein d'histoires de démonologie à droite et à gauche, les noms des démons et leur hiérarchisation. Et après, on est dans la confusion. C'est pourquoi moi je vous encourage à connaître la vérité, pas autre chose. Hein. Parce que quand tu es imprégné de la vérité, quand un corps étranger entre, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu le sens. Parce que tu es tellement imprégné de la vérité. Mais si tu n'es pas imprégné de la vérité, tu te retrouves dans ce méli-mélo, là, cette confusion. Là. Et on peut te balloter à droite et à gauche. Parce que nous ne sommes pas imprégnés de sa parole. Mes brebis, écoute ma voix et me suive. Donc c'est deux choses. Je dirais même trois. Il dit mes brebis, pas les brebis. D'abord celles qui lui appartiennent. Il faut d'abord être sûr que je lui appartiens. Ça commence par là. Et après, écouter la voix. Maintenant que je lui appartiens, je dois écouter sa voix. Et troisièmement, je dois suivre la voix, ce qu'elle me dit de faire. Or, si tu n'es pas la brebis, tu ne peux pas écouter la voix.
Non.
Si tu n'es pas la brebis du Seigneur, tu n'es pas né de Dieu, tu n'écouteras pas la voix de Dieu. Et si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu ne feras pas ce que Dieu attend de toi. Donc il faut d'abord être sûr, est-ce que je suis né de Dieu? Est-ce que je suis une brebis du Seigneur? Ça sera plus facile pour moi de l'écouter parce que j'ai tout à gagner en écoutant mon berger que de ne pas l'écouter. C'est important de le savoir. C'est pourquoi, lorsque nous lisons justement le regard d'un homme dans la Bible, et puisqu'on va terminer par là, David, sur cette histoire de berger et de brebis, regardez la profondeur de David dans son fameux psaume qui est chanté partout, 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 mais que nous ne réalisons pas toujours, le psaume 23. Pourquoi ce psaume-là existe, tout le sens, la raison d'être de ce psaume-là. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. On chante ça et on est heureux de chanter ça. Mais vous savez ce que ça veut dire tout ça là, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, c'est la voix, c'est la prière d'une brebis. Donc je me mets dans une position de brebis. Et je parle parce qu'il est le berger de qui? Berger des brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. À votre avis, pourquoi une brebis peut arriver à dire cela?
Parce qu'elle connaît,
elle a confiance. Elle connaît la capacité de son père.
Elle connaît.
Elle a confiance, elle a une confiance totale.
Cette confiance est le résultat de?
De la communion.
Communion de la révélation. Parce que j'ai expérimenté. Comment je peux dire que je ne manquerai de rien sans avoir expérimenté cela? Ne fût-ce que une fois. C'est ça le problème. Je vous avais dit que Dieu ne peut pas nous demander d'avoir la foi sans qu'il suscite cette foi. Ce qui est la révélation. Donc, quand quelqu'un dit que je ne manquerai de rien, c'est qu'il a déjà expérimenté quelque chose sur lequel il s'appuie. Parce que dès
côté, il y a l'information, il y a la révélation écrite. Mais également, il y a la révélation personnelle que tu as avec Dieu. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. C'est une affirmation qui est forte. Hein? Je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit un peu. Hein? Il dit de rien. Ça veut dire que tous les domaines de sa vie, tous les aspects de sa vie, à cause de son berger là, il ne manquera de rien. Pourquoi? Parce qu'il est le Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me fait reposer. Mon repos vient de qui? Mon repos vient de lui. Il me fait reposer. Ça veut dire que le conflit et la guerre ne seront pas toujours là. Il y a un temps de guerre, il y a un temps de paix également.
Amen.
Regardez la vie d'Israël. David incarné le temps de guerre, Salomon incarné le temps de paix. Pendant le règne de David, n'était que la guerre. Pendant le règne de Salomon, c'était le règne de la paix. Il y avait le temps de la guerre, il y a un temps de paix. Et cette paix, elle vient de Dieu. Parce que quand vous lisez l'histoire de Salomon, qui a calmé tous les peuples autour de Salomon là, pour ne pas que pendant son règne, il soit troublé, c'était l'Éternel. C'est l'Éternel qui a fait en sorte que pendant le règne de Salomon, qu'il y ait la paix. C'est pas Salomon hein, qui allait imposer la paix. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait la paix. Il y a un temps de guerre, il y a un temps de paix. Et cette paix, ce repos, il vient de l'Éternel qui est notre berger. Donc dans ta vie, si tu traverses des temps de troubles et de confusion, sache que Dieu est le Dieu qui donne le repos. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. La Bible dit quoi? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Nos forces sont renouvelées en nous confiant en Dieu. C'est lui qui va renouveler. En réalité, c'est même pas toi. Toi, tu te disposes juste devant le Seigneur. C'est lui qui renouvelle les forces. Parce que tu te confies en lui. Seigneur, je me sens si faible. Tu confesses ta faiblesse. Seigneur, j'ai besoin de toi. Là, je suis faible. Aide-moi dans ma faiblesse. C'est Dieu qui renouvelle, c'est pas toi. Toi, tu restes dans sa présence et tu laisses Dieu travailler. En reconnaissant tes incapacités. Parce qu'en réalité, nous sommes capables de rien si ce n'est que la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous donne cette force-là. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Vous voyez, parole de vie dit des choses là quand même. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Il me guide. C'est lui qui me conduit. Ce n'est pas moi qui me conduis, c'est lui qui me conduit. Sur le bon chemin. Donc ça veut dire que quand Dieu conduit quelqu'un, même si apparemment, selon nos cinq sens, les choses semblent être difficiles. Ce n'est pas parce qu'il y a la difficulté sur le chemin que Dieu t'a placé que ça ne vient pas de Dieu. Hein? Parce que quelquefois, on a l'impression que les chemins de Dieu, tout doit être facile. Ce qui est de Dieu, il ne doit pas avoir d'obstacle. Et c'est ça, on a été formaté comme ça. Alors que les chemins de Dieu peuvent avoir des difficultés, peuvent avoir des montagnes qu'il faudrait justement affronter. Les chemins de Dieu, ce n'est pas le tapis rouge. Hein. Cet évangile où avec Dieu, tout est aplani, tout est... Non, attention. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Avec Dieu, c'est vrai que c'est la victoire, c'est le succès. Hein. Mais pour arriver là-bas, le chemin de Dieu, interrogez les gens de la Bible. Demandez au père Abraham. Demandez au frère Job. Demandez au frère Joseph. Demandez-les à Isaac. Il n'avait rien fait. Il a cherché l'enfant, ça ne venait pas. Hein, pendant beaucoup d'années. Demandez à ces gens-là. Les chemins de Dieu ne sont pas des chemins aussi faciles que vous le pensez. Ah oui, ce n'est pas des chemins aussi faciles. Ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, on se dit, ah, est-ce qu'on va y arriver? Vous savez, quand vous arrivez à le dire, c'est parce que effectivement, c'est notre chair qui parle. Parce que finalement, on se rend compte en nous-mêmes.
que les choses de Dieu là. On ne peut pas.
Si c'est pas lui. Hein.
Si c'est pas lui là. Mmh. On ne peut pas. Il enlève seulement son esprit là, c'est fini. Hein. On n'aura même pas besoin d'attendre une semaine hein, pour complètement se dévier de Dieu.
Oui.
On ne peut pas vivre pour Dieu sans son esprit et sans sa grâce. C'est pourquoi on a dit, Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi.
Mm-hmm.
On ne peut pas, je vous assure, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien.
Mm-hmm.
On ne peut pas. Réalisons notre incapacité au plus profond même du terme. On ne peut rien faire.
Mm-hmm.
On ne peut pas vivre dans l'indépendance, où je vais essayer sans Dieu. Mm-hmm. Non, je ne peux rien faire. Même les choses qui sont simples. Il y a des personnes, même des choses qui sont simples, faciles à faire, elles n'y arrivent pas. Et elle ne comprend pas, mais comment se fait-il que tu es chrétien hein? Mais les choses les plus simples, là, tu as du mal à faire. Pourquoi? Peut-être que Dieu a vu que tu comptais sur toi-même. Il dit, bon, je vais lui montrer que même la chose la plus simple, là, je vais lui faire comprendre que même ça, là, si ce n'est pas moi, là, elle ne va pas y arriver. Hein? Elle n'y arrivera pas. On a besoin du Seigneur. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Ça, c'est ce qu'on pourrait intituler, si vous voulez, la prière d'une brebis. Celui qui parle, c'est une brebis qui parle de son berger. La question que nous devons nous poser ce matin, est-ce que nous, si nous étions à la place de cette brebis-là, nous dirons les mêmes choses? Il dit, elles écoutent ma voix et elles me suivent et elles ne suivront pas un étranger. C'est lui qui conduit nos vies. On dit qu'il les fait sortir et après se place devant elles pour montrer la direction. Il ne montre pas la direction en étant derrière elles.
Non.
Il se place devant elles pour montrer la direction. Et ça, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Est-ce qu'il est ton berger? En même temps, c'est une forme de suicide à la manière des hommes, notre relation avec Dieu, parce que l'affaire de la foi, là, tu vas faire confiance à Dieu que tu ne vois pas. Et là, on revient avec l'horizon invisible là, de l'avion. Tu ne vois pas avec tes cinq sens. Mais tu dois faire confiance. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas confiance, tu mourras. C'est à toi de choisir. Tu veux vivre? La seule option, c'est de faire confiance. Tu ne veux pas vivre? Alors, appuie-toi sur tes cinq sens et tu mourras. Nous n'avons pas le choix. Est-ce que nous voulons vivre? Oui. Alors, faisons-lui confiance. Or, la confiance, c'est pas seulement quand les jours sont ensoleillés comme aujourd'hui. La confiance, c'est en tout temps, même quand tout est sombre. Et c'est la partie la plus difficile, vous savez, quand tout est sombre, de faire confiance à Dieu. Parce que quelquefois, on a l'impression qu'on est seul et on veut y arriver, on veut faire les choses tout seul. Alors qu'il veut que nous soyons dépendants. Que nous soyons dans l'addiction. Addict. Addiction de Dieu. Drogué de Dieu. Possédé par Dieu. Complètement rempli de lui. C'est ce qu'il veut. Addiction. Plus qu'une drogue. Parce que l'abus de Dieu n'est pas un péché, c'est même bon. Les TTS là, c'est même bon. Parce qu'à un moment donné, on dit non, ils sont trop spirituels, les TTS. Les TTS, ils se prennent pour qui? Même parmi les chrétiens. Au lieu que la consécration d'un frère t'encourage, on a entendu ça, lui, il se prend pour qui?
C'est vrai.
Mais lui, il a compris certaines clés, certains principes que tu n'as pas compris. Lui s'attache sur son Dieu. Et il y a des fruits dans sa vie. Et toi, tu dis à lui, il se prend pour qui? Non, c'est pas il se prend pour qui. Et d'où on a collé cette étiquette-là de TTS à certains. Et c'est pas venu des païens, hein. L'affaire de TTS, ça, c'est pas les païens qui ont sorti ça, ce sont les chrétiens entre eux, hein. C'est entre nous-mêmes, là. Oh, ils sont trop, trop spirituels. Ben oui, la spiritualité, l'abondance de spiritualité, entre guillemets, elle est bonne. C'est pas ça. On n'a pas dit d'être mystique, mais nous devons être en communion. Un enfant de Dieu, il est spirituel. Je ne sais pas s'il y a des degrés de spiritualité, mais on est spirituel. C'est un abus de langage. Ou on est spirituel ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de trop trop spirituel et puis de moyennement spirituel. On est spirituel ou on ne l'est pas. Les fruits de l'esprit sont déjà évidents. Il n'y a pas à dire non, on dirait que ça. Non. Nous devons apprendre à écouter la voix de notre berger. C'est important. Mais non, s'il n'est pas notre berger, à ce moment-là, il faut chercher à ce qu'il rentre dans nos vies pour qu'il prenne la direction. La voix du bon berger. Écoutez pour suivre. Écoutez pour pratiquer sa parole. Tu n'écoutes pas. Ou bien tu écoutes juste. Alors, que dit la Bible? Je vais même lire une parole, ça me revient dans l'esprit. On va aller dans Hébreux. Ça me revient maintenant à l'esprit, je n'avais pas prévu ça. Et il y a une parole qui me revient dans Hébreux. La parole me revient, donc je cherche le bon passage. Je cherche le bon passage. La parole est dans ma tête, mais je veux vous donner la bonne référence. On dit la pluie, on parle d'une terre qui reçoit la pluie en son temps. Je ne sais pas s'il y a des lecteurs de la Bible qui pourront se retrouver. On dit que la terre, elle reçoit la pluie en son temps, sa saison, mais elle produit des rances et des épines au lieu de produire la vie. Là, je vais paraphraser le passage. Hein. C'est-à-dire que c'est une terre qui reçoit tout le temps la pluie qu'il faut. Mais malheureusement, elle ne produit pas les fruits qu'il faut, mais elle produit plutôt des rances et des épines. Et c'est assez curieux. Et dans... Une chose est certaine, c'est que lorsque vous retrouverez ce passage-là, c'est vrai qu'avec quand tu as une Bible que tu utilises de temps en temps, tu ne te retrouves pas trop. Hein? C'est là. Bref, on ne va pas perdre du temps là-dessus. Hébreu. Tu es dans le chapitre 6.
Ouais, après. Ouais. 6, 2, après, c'est le. J'ai lu ça sur le 4. À partir du 4. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste.
Jusqu'à 7, j'ai retrouvé, oui,
c'est ça. Cet esprit, qui ont goûté de la bonne parole de Dieu, au puissant.
Ah oui, c'est au 7.
Oui, c'est verset 7. Si, laissons un peu lire.
Et qu'il pourrait pourtant s'en tomber. Il est impossible de les ramener une nouvelle fois à changer d'attitude. Puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et les honorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée, fréquentée, produit des plantes, c'est ça?
Oui, c'est ça. Vas-y, continue.
des plantes utiles à ceux pour qui elle est elle reçoit des sa part des bénédictions.
Continue.
Si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu.
Voilà, amen. Voilà, c'est le passage que je voulais nous lire. Merci le Seigneur pour avoir orienté Pépé sur les bons versets, parce qu'il y en avait tellement là. Donc voilà, prenons l'exemple d'un champ, sa terre boit l'eau des nombreuses pluies qui tombent. Elle produit des plantes utiles à ceux qui la font cultiver. Alors Dieu bénit cette terre, mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Dieu va bientôt la rejeter. Et on finira par y mettre le feu. Il y a des attentes. Et ça, je terminerai par là. J'aimerais vous dire que Dieu a des attentes de tous ceux qui écoutent sa parole. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, les attentes de Dieu, c'est que cette parole doit porter du fruit. Parce que la parole de Dieu est la semence de vie. Et ce n'est pas possible que ce que Dieu a planté ne porte pas son fruit. Donc nous avons une responsabilité, nous qui sommes de Dieu, de permettre à ce que la semence de Dieu porte son fruit. C'est là où nous devenons responsables de ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu nous donne le moyen de manifester la vie. Mais le moyen que Dieu nous donne de manifester la vie, qu'est-ce que nous en faisons? Nous avons le choix d'entretenir, de cultiver, comme de laisser faire les choses. Il faut entretenir, cultiver. Ça nous ramène au jardin d'Éden. Dieu a planté un jardin appelé Éden, à l'Orient. Maintenant, il dit à l'homme de cultiver ce jardin-là et de l'entretenir. Donc, Dieu a investi, Dieu a planté sa vie, sa semence en nous. Mais ce que Dieu a planté en nous, Dieu nous demande de le cultiver pour que la vie soit manifestée. Et c'est là que justement beaucoup de chrétiens se trompent et sont sages à leurs propres yeux. Parce que nous allons rendre compte à Dieu de tout son investissement dans nos vies. Dieu a investi des choses en nous. Nous avons découvert des choses de Dieu. Qu'avons-nous fait de tout cela? De toutes ces paroles. On dit que Seigneur, je suis ton enfant, je t'appartiens. Seigneur, parle-moi. Tu veux que Dieu te parle encore alors qu'il t'a déjà parlé, tu n'as pas écouté, tu n'as pas obéi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent que Dieu parle. Seigneur, parle-moi. Mais Dieu t'a déjà parlé. Tu n'as même pas écouté, tu n'as même pas fait déjà les premières choses. Tu veux que Dieu te dise encore quoi? Voilà dans notre quête de recevoir des instructions spirituelles que le diable il profite de ce livre. Comme elle veut des réponses, je passe par le faux. Et après on entend le volume que Dieu m'a parlé. Non, Dieu est juste. Dieu, si tu as déjà parlé sur une chose bien précise, tu n'as pas encore fait la chose là. Soit il va te rappeler la même chose. Mais tu veux que Dieu te parle, Seigneur, parle-moi pas. Mais les premières paroles que tu as reçues, qu'est-ce que tu en as fait? Tu as fait, je vous ai toujours dit, et ça, ça doit être clair dans votre esprit, Dieu n'est pas bavard. Dieu ne parle pas parce qu'il veut parler. Dieu parle de façon précise, avec un but bien précis. Dieu ne s'amuse pas à parler parce qu'il veut parler avec nous. Et lorsque Dieu t'a déjà parlé, surtout quand tu t'as donné une orientation, si tu étais sûr que ça venait de Dieu, et que tu n'as pas encore bougé là, règle d'abord ce problème là avec cette parole que tu avais reçue, bouge. Mets-toi en mouvement. Mais ne t'attends pas à ce que Dieu te parle encore. Parce qu'il t'a déjà parlé. Le problème, il est là. Beaucoup de chrétiens veulent que le Seigneur parle-moi. Moi, j'ai appris avec le Seigneur que, comme Dieu t'a déjà dit une chose, à moins qu'il rappelle la chose à travers des prophéties, des personnes, des circonstances, il va te rappeler la chose qui n'a pas encore été faite. Mais il ne va pas te donner une nouvelle chose. Tant que la première chose n'a pas encore été faite, il ne te donnera pas quelque chose de nouveau.
La demande éclairée et guide-moi ou parle-moi.
Et ça dépend de notre besoin.
Il peut te guider.
Il te donne une orientation. Guider, c'est une orientation. Oui, on a besoin d'une orientation. Ça, c'est différent. Dieu te donne une orientation et quand il te l'a donnée, tu es sûr que tu l'as reçue de Dieu, tu marches. Or, il y a des personnes qui reçoivent mais qui ne bougent pas. Le problème, il est là. C'est qu'il y en a qui disent qu'ils ont reçu de Dieu mais qui ne bougent pas. Qui attendent, je ne sais pas, comment ça va se passer pour que Dieu confirme. Non. Mais Dieu, quand il donne une orientation, si tu es sûr que ça vient de Dieu, alors applique. Quand Dieu t'avertit d'une chose, et que tu n'as pas pris garde, Dieu va reprendre l'avertissement. Il va passer par plusieurs canaux. Le fond sera le même, la forme va changer. Hein. Mais ça sera, il veut te parler de la même chose. Mais il change juste la forme et le moyen par lequel il va passer. Et quand tu as capté que là, c'est le message de Dieu, bouge! Parce qu'on ne peut pas écouter les instructions de Dieu en étant assis et on ne bouge pas. Lorsque le roi Josaphat a prié le Seigneur parce qu'ils étaient attaqués par trois royaumes, Dieu lui a donné des réponses, Dieu a rassuré son serviteur, mais Dieu lui a dit, je vais combattre et tout ça, là, vous n'allez pas faire grand chose. Mais il a quand même dit au roi, lève-toi et puis vous allez quand même aller vers votre adversaire. C'est Dieu qui allait combattre, mais il a quand même dit à ce roi, lève-toi et allez-y. Il sait que ce n'était pas eux, hein, mais il leur demande à eux de poser un acte. C'est de se lever et d'aller. Comprenez? Donc, aujourd'hui, quand Dieu t'a déjà parlé, fais attention quand on demande à Dieu de nous parler. Seigneur, parle-moi. Maintenant, la question que tu devrais te poser, est-ce que tu es sûr que Dieu ne t'a pas déjà parlé pour la chose que tu demandes? Je veux plus de précision. D'accord, il est souverain. Il peut te donner plus de précision. Hein? Mais s'il y a des choses, ça doit commencer par là, et je vous laisse cette réflexion-là. S'il y a des choses, vous qui êtes ici présents, que Dieu vous avait demandé de faire, vous étiez convaincu que ça venait de Dieu, de l'Esprit de Dieu, et que vous ne les avez pas encore faites, je vous encourage à les faire maintenant. Ça, je vous dis la vérité. Moi, je m'en vais pendant 3 semaines. Et les broutilles, je ne sais pas si Jésus va revenir d'ici là ou pas, mais je suis en train de vous dire. C'est le conseil que je vous donne. Si dans votre âme et conscience, il y a des paroles, il y a des recommandations, il y a une direction, il y a des avertissements que vous avez reçus du Seigneur, ça remonte à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et vous êtes conscient que vous n'avez pas encore bougé, le conseil que je vous donne, mettez-vous en mouvement. Pourquoi? Parce que vous ne le ferez pas avec votre force. Ce que Dieu attend de vous, c'est de mettre le premier pas. Posez le premier pas. Tout à l'heure, on a écouté des témoignages des personnes qui ont demandé des opérations.